Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, après sur la planète Terre ou la planète Mer, grâce au tendanceouest.com, à réécouter à loisir cette nouvelle émission intitulée Tendance Confidence. Et c'est avec un invité aujourd'hui qui est Daniel Duigou. Bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Après avoir présenté le journal télévisé sur TF1, vous avez été ordonné prêtre à l'âge de 51 ans. Maintenant, vous êtes ermite, vous vivez dans le sud du Maroc et vous êtes aussi un passionné d'écriture. Qu'est-ce que vous voulez rajouter dans cette rapide présentation ?
Tout au départ, à 5-6 ans, j'étais dyslexique et je me rappelle les compositions, j'en faisais, je sais pas, une vingtaine de fautes d'orthographe. Il y a tout un travail qui a été fait chez moi avec la parole. Et ça, pour moi, c'est important de le souligner parce que je crois que si on n'a pas peur de notre propre parole et de dire notre propre désir, ça nous permet de nous découvrir dans le vrai sens, lever un voile sur nous-mêmes, nous découvrir et se donner la possibilité de penser par nous-mêmes.
Que vous inspirent ces deux mots-clés de cette émission, c'est-à-dire cœur et vie ?
Cœur et vie, il y a, je crois, quelque chose d'essentiel pour notre paix, notre tranquillité, notre bonheur, c'est d'être en accord avec nous-mêmes et justement en accord avec les paroles que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas des acteurs qui, disons, un texte écrit par quelqu'un d'autre. Nous sommes comme dans une scène de théâtre. La chance qui nous est donnée, en tout cas, c'est d'interpréter notre propre rôle. Une vérité, d'abord dans son corps. Je remarque souvent que des gens habitent très difficilement leur corps. Et quand on habite difficilement son corps, c'est souvent parce que on habite difficilement sa parole. On n'est pas en cohérence avec son propre désir. On joue un rôle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que dans notre société qui dit l'objectif, c'est la transparence, et un des mécanismes de défense des individus, c'est de se cacher, de ne pas apparaître. Parce que sitôt que l'on s'exprime, eh bien, on exprime une différence et c'est de plus en plus difficile à accepter dans notre société. Il y a une normalisation qui écrase les individus. Et donc, vous avez deux sous-couches dans la société, me semble-t-il. Une première sous-couche qui sont des gens qui s'exposent, qui osent exprimer tout haut ce qu'ils pensent, mais ils en reçoivent plein la figure. Hein. Il faut voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, les dégâts que cela fait. Et puis, une autre sous-couche de la population, c'est de préférer ne rien dire, passer inconnu, rester chez soi, c'est une formule, et se fondre dans la foule.
Vous êtes aussi l'auteur Daniel Duigou d'une dizaine d'ouvrages, le dernier paru en 2022, 7 jours au désert. Pourquoi avoir fait ce choix un jour dans votre vie de partir dans le sud du Maroc pour vivre comme ermite, souvent seul et à l'occasion de ce carême 2022 où nous parlons aussi de la spiritualité du désert? Est-ce que c'est un appel du silence qui a été vital à un moment?
Au départ, figurez-vous que c'est à 14 ans, en lisant la bio de Charles de Foucault, que je me dis comme ça, c'est le gamin que je ne suis plus aujourd'hui, mais c'était l'adolescent de l'époque, qui se dit, ben moi aussi je vais partir. Et le premier soir, pour ma première nuit, dans mon ermitage dans la palmeraie du sud du Maroc, je l'ai relu. Et je crois que ce qui m'avait frappé, c'était la capacité de Foucault de manifester sa liberté en changeant de destinée, en décidant de partir. Mais ce que signifie particulièrement l'ermite, c'est que nous devons avoir toujours une certaine distance avec les autres, avec le monde, pour nous permettre de réfléchir. Et l'ermite qui vit dans une certaine clôture, eh bien cette clôture, elle est très symbolique. C'est à chacun d'entre nous, et en particulier quand on est un couple, de ne pas se fondre en l'autre, mais pour permettre un dialogue, mais un dialogue avec l'autre qui est toujours un étranger, celui qui est en face de moi, d'une certaine façon, il est toujours à découvrir, comme l'autre qui est en moi. C'est Rimbaud qui le disait, je est un autre, je suis quelqu'un qui ne se connaît pas d'une certaine façon, et la vie c'est une chance, cela nous permet de faire la rencontre avec nous-mêmes, nous l'étranger.
Et est-ce que le prêtre et le psychanalyste que vous êtes aussi, Daniel Duigou, est-ce que cela fait bon ménage ?
Absolument. Mais alors, pour moi, c'est suite à Dolto qui avait commencé à faire une lecture des évangiles dans une approche psychanalytique. Je me sens de plus en plus en accord avec ce que dit Marc, Luc, Jean et les autres, je dirais, parce que avant même de découvrir qui fut Jésus, le Jésus historique, je rencontre ces évangélistes. C'est pas pour rien que un tel et un tel écrivent ce qu'ils écrivent à leur façon. Et c'est remarquable. Quand, notamment, j'ai écrit un livre sur les miracles, les sept miracles dans l'évangile de Jean. C'est pas écrit n'importe comment. Il y a une vérité, il y a une pertinence dans les personnages qui sont décrits à l'occasion des miracles, et notamment une pertinence quant à la relation que crée Jésus avec les personnes qu'il rencontre. Il ne se met jamais, par exemple, dans une position de gourou qui va soumettre l'autre à son dictat. Au contraire, il libère à chaque fois les individus de tout ce qui peut les emprisonner et les empêcher de devenir eux-mêmes. Et ça, c'est d'une pertinence, ça se vit en psychanalyse, s'interroger sur ce que l'on est pour soi-même à travers sa propre parole.
Avec vous, nous parlons aussi de cette spiritualité du désert à partir de cet ouvrage, 7 jours au désert, paru aux éditions Salvator en 2022. Est-ce que le silence devient à un moment assourdissant pour vous?
Le silence qui me met face à moi-même fait peur, est dangereux, parce qu'on n'a pas envie de découvrir quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas. En particulier, nous idéalisons, et surtout nos parents nous ont souvent, pas toujours, idéalisé. Et l'enfant, du coup, a l'impression qu'il est le nombril du monde, que le monde tourne autour de lui. Et on rêve d'être un personnage. Et puis, petit à petit, avec les épreuves, on s'aperçoit qu'on n'est pas ce personnage-là. Et y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un silence, c'est que la vie ne vous renvoie pas le rêve que vous vous étiez construit. Donc le silence peut faire peur. Je me rappelle d'ailleurs de cette phrase étonnante de Freud qui écrit « Le plus difficile peut-être, c'est d'accepter d'être un homme ordinaire. Nous sommes cet homme-là ou cette femme-là. Comme d'ailleurs il a fallu que l'on accepte que notre maman, qui était la plus belle des femmes, ne soit cette femme-là avec ses limites. Et notre père aussi, notre père n'est pas le héros dont on a rêvé un jour, mais c'est grâce à cet homme-là que je me suis construit. Voilà, et ça fait partie pour moi d'un silence. Ça passe par un silence, c'est-à-dire mettre à distance des images idéalisées pour découvrir la réalité. Et vraiment pour moi, le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu de l'imaginaire, c'est le Dieu du réel, c'est le Dieu qui me permet et qui m'invite à vivre la réalité du monde, à l'assumer et en faire quelque chose, c'est-à-dire construire dans cette réalité du monde. Dieu sait si le monde est en pleine transformation, en pleine remise en question, trouver ma place où je peux apporter quelque chose de moi-même.
Que vous inspire cette notion de carême et de désert?
Le désert, c'est ce temps que nous avons à vivre d'une façon géographique, comme je le vis moi, ou dans notre tête. Il y a quelque chose qui m'avait vraiment très impressionné la première fois que j'ai pris un 4x4 et que je me suis engagé dans le désert à travers les dunes. On ne sait pas si on est à l'origine du monde, ou si on est à la fin du monde, après une guerre atomique, et on est dans un entre-deux. On a cette impression, vous savez, dans le désert, que le temps n'existe pas. Ce qui est important, c'est le présent. Le passé m'habite toujours parce que ce que je suis devenu, c'est ce passé-là que j'ai vécu et qui fait que je suis celui que je suis. Et en même temps, j'entre dans le futur.
Ou face à une page blanche pour continuer d'écrire le livre de votre vie.
Vous savez, il y a certaines personnes qui ont peur de la page blanche, parce que le premier mot décide du reste. Le désert, c'est un peu ça. Ça m'y fait penser spontanément en vous répondant. Accepter de marcher. Dans le désert, il n'y a pas de traces. Il s'agit d'ouvrir un chemin nouveau. Et je crois que c'est ça qui nous confronte à la foi, à la problématique de la foi, à la problématique aussi de ce Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui m'invite à inventer mon chemin, pas le chemin de l'autre, un chemin nouveau. Et ça, c'est un saut, dirait Kierkegaard, un théologien, un saut dans l'inconnu, mais c'est un saut qui est nécessaire, qui peut faire peur, mais qui est une preuve d'amour.
Dans les évangiles sont relatés les différents événements de la vie de Jésus. Il est question de ces 40 jours qu'il a passés au désert. Votre livre a comme titre « 7 jours au désert ». C'est un chiffre symbolique pour vous ?
Oui, parce que c'est du symbolique. Je pense que Jésus a passé toute sa vie dans le désert, d'une certaine façon, à s'affronter au, rappelez-vous, dans Marc, aux bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages, des scorpions autour de nous, mais aussi en nous. Et dans le passage de Marc, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Il va accepter, non pas en se battant contre les animaux sauvages, mais à vivre avec le saint, S-A-I-N-T. C'est pas forcément celui qui n'a rien à se reprocher, mais c'est sans doute celui qui accepte ses défauts, mais qui reste debout pour faire face aux réalités de la vie.
Durant ces 40 jours de carême qui conduisent à la fête de Pâques, à la résurrection du Christ, il est question de trois mots importants, le jeûne, la prière et le partage. Parlez-nous de cette expérience de la prière que vous vivez aussi dans votre ermitage.
Alors au début, dans mon ermitage, j'avais transformé une petite pièce qui était une ancienne mosquée. Dans les casbahs, il y avait toujours une pièce qui était réservée à la prière. Je l'avais transformée en chapelle. Et c'était simplement un tapis, un vieux tapis de prière sur la terre, puisque c'était du piset, hein, c'était une maison en terre, qui me permettait de me mettre à genoux devant une grande Bible qui était ouverte au milieu du tapis, et une faible lumière qui arrivait par un trou creusé dans le mur. Et dans cette ambiance-là, au début, je ne tenais que 5 minutes dans le silence. Il fallait, au bout de 5 minutes, absolument que je trouve quelque chose à faire. Je partais, je revenais, etc. Après, ça a été 10 minutes. Après, ça a été un peu plus. Il y a tout un travail à faire avec le silence. Et d'ailleurs, quand je vous dis travail, je pense tout de suite à cette salle qui sert à l'accouchement, qui sont des salles de travail. Le sens de travail, c'est accoucher. Et je crois que c'est important, le silence, et dans ce temps du carême, c'est aller à l'essentiel.
Une oasis, vous savez ce que c'est évidemment, au désert. Quelles sont les oasis qui sont pour vous ces lieux privilégiés dans votre vie, Daniel Duigou ?
Je crois qu'il existe un livre qui s'appelle « Les lieux de Dieu ». Il y a des endroits qui nous inspirent ou qui ne nous inspirent pas. Il y a des endroits qui nous mettent mal à l'aise, ou au contraire des endroits qui appellent à la paix, à la douceur, à la réflexion. Et de fait, votre question, elle est très juste. Je crois que plus que jamais, nous, les hommes et les femmes de ce 21e siècle, nous avons besoin d'oasis. C'est-à-dire que la vie va de plus en plus vite. Or, il est nécessaire, à certains moments, premièrement, de s'arrêter de courir. Deuxièmement, pour s'isoler, d'où l'idée de Palmeret, afin de, troisièmement, se donner un espace où penser. Et d'ailleurs, la première Palmeret auquel je pense d'un seul coup, spontanément, en vous répondant, c'est soi-même. Je crois que c'est important d'avoir un lieu où l'on peut rester avec soi, où l'on peut fermer. Vous savez, il y a un psychologue qui s'appelle Winnicott qui disait il y a la peau comme première frontière entre l'intérieur et l'extérieur qui nous protège. Il y a une deuxième peau, c'est le vêtement, et qui participe à notre identité. On s'habille pas de la même façon quand on part faire du sport que lorsqu'on va voir son patron. Et puis il y a une troisième peau, c'est ma maison. Et je connais des patients qui ne peuvent plus habiter leur maison tellement elle est en désordre. Si on est bien chez soi, ça veut dire qu'on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans son corps et qu'on est en cohérence avec soi-même. Et si, au contraire, on ne se sent pas bien chez soi ou chez quelqu'un d'autre que l'on va visiter, c'est donc qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui est faux. Je suis pas en vérité avec mon désir.
Dans le désert, nous pouvons aussi connaître le sens du manque que vous inspire ce mot partage, alors que nous parlons aussi avec vous du carême.
Le partage est quelque chose d'essentiel parce que l'autre me sauve car il me permet en partageant avec lui d'exister dans une réalité et pas une fuite dans un imaginaire. Dans cet effort d'essayer de reconnaître en l'autre le visage du Christ, je rencontre l'autre avec un grand A. Ça, c'est Kierkegaard aussi, qui dit qu'au fond, la foi, c'est se réaliser dans ce que l'on est en vérité. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous invite, hommes et femmes, à accoucher de nous-mêmes. Et c'est en cela qu'il est un Père.
Et dernière question avec vous, Daniel Duigou, que direz-vous à Dieu au soir de cette vie terrestre ou au matin d'une vie céleste ?
Je lui dirai merci. Merci de m'avoir permis de découvrir ce qu'est aimer.
Et je vous souhaite déjà une belle espérance de Pâques, où l'amour est plus fort que la mort.
Merci.